donc l'enseignement que, ou la conférence ou le temps que nous allons avoir ensemble, c'est intitulé le temps de la miséricorde. Donc, comme disait le père, dont je, mon père, je vous remercie de votre accueil d'abord, je ne l'ai pas fait officiellement, nous n'avons pas encore l'occasion de le croiser. Donc pour ce temps, sur le temps de la miséricorde, en fait, j'aimerais revenir sur la grâce qui nous a fait aujourd'hui d'avoir trois saintes parmi nous, Faustine, Marguerite Marie et Thérèse. Thérèse accueille ses deux sœurs, elle les a encadrées dans le temps. Elle a été aussi un pont, je pense, dans l'histoire et dans ce chemin dans lequel nous sommes rentrés dans la miséricorde. Et donc, j'aimerais, avec elle, vous proposer une relecture un peu de ce temps, mais ne pas le faire seulement dans une attitude historique, vous voyez. On est bien assis, et on regarde un bon air d'histoire, mais on ne se sent pas engagé. L'enjeu de ce temps, c'est bien sûr que nous nous engagions. Alors pour cela, je voudrais repartir de quelques citations du pape François dans la bulle d'indiction Misericordia Vultus sur le temps. Je vais essayer de regarder quand est-ce qu'il parle du temps et qu'est-ce qu'il dit sur le temps, sur ce temps, sur le temps qu'il faut venir. Et il commence en disant au numéro 4 qu'il avait choisi d'ouvrir la nuit de la miséricorde et de l'ouvrir le 8 décembre de l'année dernière, 2015, parce que c'était la conclusion du Concile, c'était l'anniversaire des 50 ans de la fin du Concile Vatican II. Et donc, il nous a invités à vivre ce temps de la miséricorde, cette année de la miséricorde, dans la perspective du Concile. Il dit notamment, la muraille qui avait trop longtemps enfermé l'Église comme dans une citadelle et a été abattue, grâce au travail du Concile, le temps était venu d'annoncer l'Évangile de façon renouvelée. Le temps était venu d'annoncer l'Évangile de façon renouvelée. Étape nouvelle pour l'évangélisation de toujours, engagement nouveau de tous les chrétiens à témoigner avec plus d'enthousiasme et de conviction de leur foi. L'Église se sentait responsable d'être dans le monde sans le vivant de l'amour du Père. Et la miséricorde s'appelle être miséricordieux comme le Père. On reprend ces mots, miséricordieux comme le Père. Nous sommes responsables, l'Église, c'est-à-dire chacun de vous, vous et moi, chacun d'entre nous, là où nous sommes invités d'être responsables dans le monde, le signe vivant de l'amour du Père. Et en commençant cette année de la miséricorde, justement 50 ans après le Concile, eh bien, c'est bien l'enjeu, c'est que chacun d'entre nous est rentré dans cette dynamique, non seulement de vivre de la miséricorde, mais d'être miséricordieux comme le Père. Alors, il ne reste plus que 2 mois avant la fin de l'année de la miséricorde. Chers amis, êtes-vous pratiquement prêts? Est-ce qu'on pourrait dire que dans 2 mois, vous êtes miséricordieux comme le Père? Oui? Dis donc, c'est pas... On n'ose pas trop le dire quand même, parce que ceux qui disent, je suis miséricordieux comme le Père, et puis tout le monde va se dire, mais quelle orgueilleuse alors? Vous voyez? Et en même temps, on voit bien qu'on n'y est pas. Alors, on peut dire, bon, on a raté notre année et notre vie, on va continuer comme ça. Voilà, mais non, cette année de la miséricorde, au fond, je pense, est un tremplin pour nous, mais à garder au cœur l'objectif, c'est d'être miséricordieux comme le Père. C'est non seulement de recevoir la miséricorde du Père, non seulement vivre de la miséricorde du Père, mais ne pas oublier que l'objectif, c'est de devenir miséricordieux comme le Père. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Alors ça nous dépasse. Ce comme le Père, aimer comme le Père, ça nous dépasse. On n'est pas cher, on n'est pas Dieu. En même temps, si Dieu nous propose, soyez saint comme je suis saint, soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux, c'est qu'il veut que ça se fasse. Alors souvent, un peu comme les saints qui sont là, on pourrait dire, bon ben Seigneur, si tu veux, tu le fais. Parce que si c'est pour nous-mêmes, on ne va pas s'en sortir. Mais on va le vivre avec toi. Et ça, il y a déjà le premier témoignage que nous donnent ces saintes. Elles sont tous bien conscientes qu'elles arrivent, que ça ne se passera pas sans le Seigneur. S'accrocher au Seigneur qui est le miséricordieux. Donc, dans la suite du Concile, nous avons tous été appelés à la sainteté, confiance en elle, que la sainteté est faite pour tous, et bien le pape François nous invite à rentrer dans ce temps nouveau, ce temps de la miséricorde, le temps d'annoncer l'Évangile, le temps d'être témoin de la miséricorde. Vous voyez, donc, dans ce, notamment, le mois de décembre, c'était l'anniversaire de la constitution de Dieu l'espace, l'Église dans le monde de ce temps, qui contemplait aussi la place des lacs, au cœur du monde, mais chacun d'entre nous, frères et sœurs, nous sommes invités à rentrer dans cette histoire. Alors, nous allons faire avec ces trois saintes, et tout ce que nous pouvons dire d'elles, et là, pour nous dire, et moi maintenant. Et moi, ici, et aujourd'hui, et dans ce, voilà, ici, et maintenant, où, Seigneur, où est-ce que, Seigneur, tu m'appelles à vivre cette miséricorde concrètement? Alors, j'aimerais reprendre maintenant un peu le fil rouge du temps de la miséricorde, un peu plus dans une lecture historique, en repartant un peu plus tôt que cette trois saintes, avec Saint Gertrude en 1302. Peut-être que, vous le savez, c'est assez rare que le Christ apparaisse. Bon, bien sûr, certains d'entre vous ont des apparitions de Jésus. Vous voyez, le soir, Jésus vient vous voir. Mais, ça reste entre vous et Jésus. Il n'a pas encore demandé d'en parler à tout le monde. D'autres ont des apparitions, d'autres n'ont pas d'apparition. Thérèse n'a jamais eu d'apparition de Jésus. Elle a passé toute sa vie sans apparition. Donc, vous voyez, si vous n'avez pas d'apparition, ce n'est pas grave. Il n'y en a pas un normal. Vous voyez? Et puis, d'autres ont eu des apparitions du Christ, mais ce n'est pas seulement une apparition privée, c'est une apparition où Jésus demande à demander une fête pour l'Église universelle. Il y a un message pour l'Église universelle. Et ça n'est arrivé que deux fois dans le monde. Mais la première fois, c'est avec Saint-Marie Marie. Donc, vous avez ici une côte flottante, vous voyez, dans ce reliquaire. Et donc, la Marie va recevoir les apparitions du cœur de Jésus, du Sacré-Cœur. Et maintenant, ça fait pas du Sacré-Cœur, à un certain effet pour toute l'Église. Et puis, la deuxième fois, ce sera trois siècles plus tard, avec Saint-Faustin qui recevra l'appel à instituer la fête de la miséricorde. Et donc, avant, nous avons une Gertrude, qui a une apparition privée, et que dans cette apparition privée, elle va reposer sur le cœur de Jésus, en 1302. Et là, elle parle à Jésus de lui savoir pourquoi est-ce que Saint-Jean n'a pas parlé plus que cela. Lui qui a reposé sur le cœur de Jésus dans l'Évangile, pourquoi il n'a pas écrit 100 chapitres sur cette expérience? Parce que ça l'a tellement bouleversé. Pourquoi il se tait? Et Jésus lui répond que la mission de Saint-Jean était de révéler le mystère du Verbe incarné. Sa mission, c'était de faire comprendre aux hommes que Dieu était venu sur terre. Dieu s'était fait homme pour nous sauver. Et on continue en disant, mais un temps viendra, dans le temps moderne, où l'amour se refroidira. Alors, je révélerai les pulsations de mon cœur. Jésus annonce un refroidissement de l'amour, et il dit, et là, je vais faire comprendre l'amour de mon cœur. C'était en 1302 à Saint-Gertrude d'Efta. Trois siècles plus tard, Jésus apparaît à Marguerite Marie. Il montre son cœur passionné d'amour pour les hommes. Et Marguerite Marie, comme Gertrude, repose maintenant sur le cœur de Jésus, comme Gertrude, comme Saint-Jean. Et là, Jésus lui demande de faire connaître ce message par la fête du Sacré-Cœur, que tous les hommes puissent découvrir cet amour passionné. Un peu plus tard, Thérèse viendra, et je pense que Thérèse est une clé d'interprétation du message de Jésus à Sainte Marguerite Marie. Dans un temps nouveau, dépoussiéré aussi de tout le jansénisme, on va essayer d'aller plus loin, approfondir ce message de Sacré-Cœur. Mais elle n'aura pas d'apparition. J'aimerais une lettre que Thérèse écrit à sa sœur Céline, alors que Céline va venir à pèlerinage à Paris-Marie, sur le pont de Sainte-Marguerite-Marie, et elle dit, oui, il n'y a pas une grâce là-bas. Et puis elle dit, moi, je ne vois pas le Sacré-Cœur comme tout le monde. Moi, je suis un bien aimé, et mon bien aimé est à moi. Et puis, il faut qu'on intercède pour aider l'attitude des hommes. Il faut qu'on prie pour les prêtres. Et dans cette lettre, en fait, Thérèse qui dit qu'elle ne voit pas le Sacré-Cœur comme tout le monde, reprend exactement le mot de l'apparition de Jésus à Marguerite Marie. Alors, elle voit clairement le Sacré-Cœur comme Marguerite Marie. Mais elle le voit comment? Non pas comme une dévotion, avec des vieilles pierres et tout ça, des choses à faire, Alors, il faut faire le premier dernier du mois, il faut faire l'heure-sainte, il faut faire des... Non, on le voit comme une relation d'amour. Je suis un bien aimé et mon bien aimé est à moi. Il y a déployé plusieurs aspects sur lesquels je reviendrai tout à l'heure, notamment la question de la réparation, de l'autosacrifice, sacrifice, toute cette théologie, l'offrande de l'homme pour les pécheurs. Trois siècles après Margaret Marie, Jésus va venir se révéler à Faustine dans un contexte très particulier, en 1931, à Cracovie. Et là, il va poursuivre ce qu'il a montré à Margaret Marie. Jésus a montré à Margaret Marie un cœur ouvert, son cœur ouvert. Vous savez que le cœur de Jésus n'était jamais ouvert, parce que Jésus, son côté, était transpercé alors qu'il était mort. Et le plan ne se referme pas après la mort. Donc le cœur de Jésus n'était jamais ouvert. Et Faustine, il va montrer ce qui a jailli de ce cœur. Jésus se révèle à Faustine en lui remontrant encore son cœur, mais en montrant que de ce cœur jaillissent les deux rayons, le sang et l'eau, qui jaillissent du côté de Jésus. Depuis quand Jésus apparaît, il montre toujours son cœur. Une assistance de Jésus pour nous recentrer sur son amour, l'amour passionné qu'il a pour nous. Et depuis 1302, d'abord de manière privée, puis à travers de nombreux mystiques, mais particulièrement à travers Margaret Marie et Faustine, Jésus avait institué dans l'Église plus fortement le message de son cœur passionné d'amour pour nous, de sa miséricorde. D'une certaine manière, vous voyez, on reste, il n'y a rien à voir, hein, on reste dans le mystère pascal, on voit le vendredi saint, on voit Jésus sur la croix, et on voit tout d'un coup le coup de lance. Et on fait une pause, et là, on contemple le mystère du cœur de Jésus, ouvert sur le monde entier. Et puis, on avance un tout petit peu, on fait une deuxième pause, on voit là le sang qui jaillit de son cœur, et là, on voit toute la miséricorde de Jésus qui veut se répandre sur les pécheurs. Cette attention particulière avec Faustine de répandre sa miséricorde pour les pécheurs. D'un côté, ce serait plus le cœur passionnellement pour les hommes, toute cette amour, et cet appel à rentrer dans l'amitié, et de l'autre, plus l'invitation de l'entendre plus pressant à contempler Dieu qui est le sauveur de tous les hommes et qui vient chercher les pécheurs. Dans un côté, le couple bien-aimé, le bien-aimé et sa bien-aimée, l'ami, de l'autre côté, le sauveur et le pécheur. Alors, pour poursuivre le chemin, il me semble que de la manière que Thérèse explicite aussi le message du cœur de Jésus à travers plein d'expressions, quand Thérèse dit par exemple, dans le cœur de l'Église, je serai l'amour. C'est quoi ce cœur de l'Église? Elle ne dit pas je serai le cœur de l'Église, elle dit je serai dans le cœur de l'Église. Elle sera dans le cœur de Jésus. Comme Jésus va prendre le cœur de Margaret Marie et plonger dans le sien. Vous voyez, Margaret Marie a cette belle expression, je veux te rendre amour pour amour. Et Thérèse utilisera comme devise, l'amour ne se paie que par l'amour. Et pour apprendre ces mots dans leur chemin. Et bien, dans la même manière, on sent que Faustine va être déployé dans l'histoire grâce à Jean-Paul II. Il va nous aider à faire connaître plus profondément le message de Sœur Faustine. Je terminerai ce chemin par deux figures. D'abord, le pape François, je ne suis pas en train de le canoniser. C'est pas ça ma mission. Et j'aimerais vous passer cette petite histoire. Quand le pape Jean-Paul II est venu à Paris-Monnaie, il y a 30 ans, ce sera 30 ans mercredi prochain, c'était le 5 octobre 1986, et bien, il a rassemblé tous les jésuites dans une petite chapelle qui s'appelle la chapelle Saint-Claude. Saint-Claude est le père spirituel de Margaret Marie, le disciple bien-aimé, le fidèle serviteur, le parfait ami de Jésus, de la même manière que Saint-Faustin recevra un fidèle ami de Jésus qui sera le père Sopoco. Et bien, le pape Jean-Paul II rassemble ces jésuites dans cette chapelle avec le saint jésuite qui était Saint-Claude de Colombière. Et il rappelle à tous les jésuites qu'un jour, Jésus a confié une mission spécifique au sein de la visitation aux jésuites. L'un de faire comprendre l'amour du cœur de Jésus, et les autres de faire comprendre l'intelligence de cette dévotion au Sacré-Cœur. Et le pape Jean-Paul II a dit à tous les jésuites, Je vous rappelle que Jésus nous a confié le message du Sacré-Cœur. 30 ans plus tard, un pape jésuite met en place une année de la miséricorde. Voyons ce chemin dans l'histoire où le temps de la miséricorde se déploie et où le pape François nous offre à son tour de l'encouragement de cette histoire, et bien cette année de la miséricorde. Mais cette année pour que cette fois ce ne soit pas de l'un ou de deux, mais c'est que tous ensemble nous en entrions. Alors on y entre depuis toujours, mais nous entrions avec une conscience pleine. Nous sommes invités à être les témoins de la miséricorde pour ce temps. Et pour terminer ce chemin, ce sera une forme particulière, puisque le pape a décidé de cette année de la miséricorde, de l'économiser Mère Teresa. Il a beaucoup insisté pour que ce soit dans cette année. Je pense que c'est aussi pour nous montrer la manière d'être miséricordieux. Et dans les œuvres de la miséricorde qu'il nous a donné, nous avons Sainte Mère Teresa, pour nous montrer aussi comment la déployer. Donc, dans toute cette phrase, frères et sœurs, nous arrivons ici à notre temps, où nous sommes invités à nous-mêmes vivre de la miséricorde. Alors, je vous propose de le regarder, ce temps de la miséricorde, à travers trois verbes. Le temps d'accueillir la miséricorde, le temps de demander la miséricorde et le temps de donner la miséricorde. Trois petits aspects sur la manière de vivre la miséricorde. Alors, vous me pardonnerez, mais je connais plus Marguerite Marie que Thérèse et Christelle. Je partirai d'elle, mais j'essaierai quand même de voir comment ces deux grandes sœurs ou ces deux petites sœurs, je ne sais pas comment il faut les garder, voilà, mais Marguerite Marie n'est pas docteur de l'Église, donc on peut dire que c'est Thérèse, la grande sœur. La petite qui était derrière est passée devant, ben voilà. J'ai oublié de le dire, mais vous savez que quand vous rentrez à Montmartre, les deux saintes qui vous accueillent à Montmartre sont Marguerite Marie et Thérèse. Alors, à l'époque, Faustine n'était pas née, donc c'est normal qu'elle n'y soit pas. Mais ces deux grandes statues à l'intérieur de Montmartre vont prendre Marguerite Marie et Thérèse. Thérèse, déjà, est si fort de le Sacré-Cœur. Donc, la première expérience que je vous propose, c'est d'accueillir la miséricorde dans la même situation que, justement, d'abord que Marguerite Marie, qui, alors qu'elle était déjà consacrée, eh bien, était en train de prier devant le tabernacle, tout simplement. Le Saint-Sacrement n'était pas exposé. Et elle a fait cette expérience de l'amour de Jésus pour elle. Elle dit qu'il lui fit découvrir la mémoire de son amour qu'il avait toujours tenu caché jusqu'alors et lui fit reposer sur son cœur. Elle est donc déjà religieuse. Elle n'avait pas encore compris l'amour de Jésus pour elle. Alors, si certains d'entre vous sont chrétiens depuis très longtemps, dites-vous que le Seigneur est sûrement encore aujourd'hui, vous devez faire une expérience de son amour. Et vous avez le droit de désirer cela. Jésus va prendre son cœur. Est-ce que tu veux bien me donner ton cœur, dit Jésus à Marguerite Marie. Alors Marguerite Marie dit, oui, prends mon cœur. Et mon frère m'a dit, mon père, s'il prend le cœur de Marguerite Marie, elle est morte. Alors, peut-être qu'il a raison, cet enfant. Elle va peut-être mourir à elle et plonger dans le cœur de Jésus et commencer à avoir le sentiment du cœur de Jésus en elle. C'est ce qu'elle dit. Elle dit, mon cœur était comme un petit atome dans une fournaise ardente. Et son cœur commence à s'embraser. Ce qui donne la grande prière de Jésus à Parménon. Jésus rend mon cœur semblable au tien. Jésus, deux âmes de cœur, rend mon cœur semblable au tien. Qu'on puisse avoir un cœur comme celui de Jésus. Un cœur qui s'embrase. Et on redonne son cœur embrasé à Marguerite Marie. Je te rends ton cœur. Et justement, au moment de cette côte flottante, Marguerite Marie, donc elle sentira toujours cette douleur à côté qui lui rappelle ce moment où Jésus lui a demandé son cœur. Donc, il y a vraiment ce plonger au cœur de Marguerite Marie dans celui de Jésus qui s'embrase. Et Jésus va se déclarer à Marguerite Marie en lui disant, mon cœur est passionné d'amour pour toi en particulier. Mon cœur est passionné d'amour pour toi en particulier. Expérience de Marguerite Marie d'être aimée de Jésus, de voir qu'elle fait partie de celle qui est choisie et qui repose sur son cœur. Donc j'aimerais vous inviter vraiment à rentrer dans le même sentiment. Parce que cette parole de Jésus, elle est aussi pour chacun d'entre vous. Mon cœur est passionné d'amour pour toi en particulier. Alors vous pouvez peut-être vous dire que vous n'êtes pas Sainte Marguerite Marie, Mais vous savez, quand Jésus a choisi Marguerite Marie, elle a dit non seulement mon cœur est passionné d'amour pour toi en particulier, si en général on aime bien entendre ça, hein. Madame, en général, quand on vous dit qu'on vous aime passionnément, vous aimez bien. Oui. Tout le monde est déjà endormi. Oui, c'est une expérience qu'on a eue à Paris-Monnaie, et j'aime bien la raconter. C'est qu'un jour, il y a un monsieur qui est venu, il a vu sans sa femme, avec un groupe d'hommes. Il a vu cette parole-là, mon cœur est passionné d'amour pour toi. Alors, il a pris ça en photo, et il a envoyé ça à sa femme par texto. Et il a reçu un texto, mon cœur est passionné d'amour pour toi. Alors, il a envoyé une réponse. Mon chéri, tu devrais partir plus souvent. Donc, monsieur, je vous invite à dire souvent à ma femme, mon cœur est passionné d'amour pour toi. Voilà, c'est explicite. Par contre, après, je vous invite à une deuxième parole que je vous invite à ne pas dire. Ne se la même pas. Il lui dit, je t'ai choisi comme un modèle d'indignité et d'ignorance. Jésus, vous l'avez prendre pour réponse Marguerite Marie. Oui, je l'ai choisi comme un homme d'indignité et d'ignorance. Et vous, Marguerite Marie, et moi, je vais réfléchir un petit peu là maintenant. Alors, c'est une parole violente, hein. En fait, Jésus rejoint le cœur de Marguerite Marie. Parce que Marguerite Marie, qui a découvert l'amour de Dieu, se dit, mais moi, je ne suis rien. Je ne suis qu'une petite fleur par rapport à cet amour de Jésus. Et Jésus la confirme, effectivement, tu es un homme d'humanité. Elle n'est pas pire que vous, hein. Oui, on dit à chaque fois, je ne suis pas digne de te recevoir. Si je prenais conscience, Seigneur, de qui tu es, je m'avancerais en tremblant. Et Jésus lui dit, mais je t'ai choisi comme un homme. C'est moi qui viens te chercher. Donc c'est vrai que moi, je suis au fond de la bonne, mon Père. Je ne suis pas une sainte. Je ne suis pas un saint. Et bien, Jésus est descendu chercher ma garde, Marie, au fond de la Bible. C'est un témoignage pour lui dire, il vient chercher chacun d'entre nous. Et chacun d'entre nous, il peut lui te dire, viens reposer sur mon cœur, je suis passionné d'amour pour toi. Thérèse, elle, d'une certaine manière, elle avait le moment inverse. Dans sa conversion à 14 ans, parmi tous ses choix, voilà, c'est pas une fois pour toutes, hein, elle va dire, j'ai senti la charité entrer dans mon cœur, le désir de me donner et de même je suis heureuse. C'est pas son cœur qui rentre dans le cœur de Jésus, c'est Jésus qui rentre dans son cœur. Je suis habité de l'amour de Jésus. C'est un peu le bon à l'épître romain, hein. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui habite en nous. C'est facile. Romains 5, 5. Et bien, Thérèse vit cette expérience-là. Jésus, tout le temps, vient habiter mon cœur. Et elle était marquée par ses scrupules, elle n'était pas parfaite non plus. C'est vraiment elle pleurait, elle pleure de pleurer, enfin, c'est bien très compliqué. Et là, tout d'un coup, Jésus lui répète à son cœur. Et elle dit qu'à partir de ce moment-là, va commencer cette course de géant. Course de géant, à partir de cette expérience au fond de son cœur. Elle dit aussi, parce qu'elle avait besoin de cette confiance en l'amour de Dieu, et elle dit, je comprends que si j'étais aimée sur la terre, et elle était par toutes ses sœurs et son père, je l'étais aussi au ciel. Alors si certains d'entre vous ne comprennent pas qu'ils sont allés sur la terre, ben je vous souhaite de découvrir que le Père est passionné d'amour pour vous. Rappelez-vous, Isaïe, une mère peut aller bien son enfant sans l'oublier, moi je ne t'oublierai pas. Donc comme Thérèse, entrer dans ce chemin, de laisser Jésus entrer dans son cœur. Autre expérience d'accueil de la miséricorde. Et Faustine, dans le temps de la fête du Saint-Sacrement, c'est-à-dire autour de la fête du Sacré-Cœur, va dire, Dieu me remplit de la lumière intérieure, d'une connaissance plus profonde de lui-même, comme le bois est plus grand et la plus grande beauté. Je suis comme Dieu m'aimait. Son amour pour moi est éternel. Alors, pendant la vêtre, par des mots tout simples sortis de mon cœur, je fis à Dieu un vœu de chasteté perpétuelle. Depuis ce moment, je sentis une grande intimité avec Dieu, mon époux. Dès lors, je fis une petite cellule dans mon cœur où je demeurai toujours avec Jésus. Donc, dans cette expérience d'accueil de la miséricorde, et avec Thérèse, avec Faustin, j'ai rajouté un petit complément, c'est du coup, qu'est-ce qu'elle met en place? En fait, vous avez entendu, elle a mis en place un coin prière. Et dans ce coin prière, dans son cœur, elle est tout le temps avec le Seigneur. Qu'elle soit dans le métro, pour le français, je ne pense pas qu'elle était souvent dans le métro, mais elle est dans le métro, dans la rue, au travail, elle peut rentrer dans son coin prière, qui est son cœur. Et la place dans son cœur où Jésus demeure toujours. Elle ne dit pas qu'elle sent toujours Jésus qui est là. Hein. Thérèse le dira dans sa vie de prière après, hein, que ma vie de prière était souvent sommeil et sécheresse. Donc la question n'est pas seulement sur une question de sensibilité. Donc Jésus veut habiter mon cœur, il l'a fait pour chacune des saintes qui est là, et il va le faire pour chacun des nôtres. Et que vous soyez un homme d'adulte, que vous ayez des scrupules, que vous soyez encore plein de péchés, quel que soit vos âges, que vous soyez les habitués de la foi ou des nouveaux recommençants, ou des personnes qui découvraient, et bien Jésus vient vous dire, je veux demeurer en toi. Je veux demeurer en toi. Et le pape François nous dit, voici le moment favorable pour changer de vie, voici le temps de se laisser toucher au cœur. Alors on va voir, il y a plusieurs manières de se laisser toucher au cœur, mais une manière c'est aussi de laisser Jésus qui frappe à la porte de notre cœur. Pour y faire sa demeure. Et aussi, contempler que la porte du cœur de Jésus est toujours ouverte et qu'il nous invite à y rentrer. C'est exactement la signification qu'a donné le pape François de la porte de miséricorde. Le bon jésuite a repris le terme du Sacré-Cœur. Le cœur de Jésus est ouvert et comme pour Marguerite Marie, nous sommes invités à rentrer dans son cœur en passant la porte de la miséricorde. Alors, un moyen concret, ça peut être le sacrement de réconciliation. Qui est un des moyens. Le pape a dit, par le programme de la miséricorde, par rapport au national de la miséricorde, qui célèbre le sacrement de la réconciliation pour le peuple, pour que le temps de grâce de l'année jubilaire permette à de nombreux fils et nièces de retrouver le chemin de la maison paternelle. Alors, ça, je pense que, avant les deux mois qui viennent, on peut tous y plonger. Se laisser saisir par le Père bien-aimé qui court à notre rencontre. Et qui va nous faire miséricorde. Dans beaucoup de sanctuaires, nous avons partagé avec les différents orateurs et nous voyons bien sur ce qui se passe pendant cette année de la miséricorde, une grâce particulière où souvent Jésus ne vient pas seulement en surface, pardon, vos péchés quotidiens ne sont pas une surface seulement, et c'est important, mais Jésus vient souvent, notamment dans la confession, rechercher des points plus profonds, des choses un peu étouffées, vous voyez, qu'on n'a vraiment pas envie de regarder. Cette histoire d'il y a 20 ans que je ne veux pas regarder, Seigneur, je mets plein de couvertures dessus. Et Jésus, pour cette année de la miséricorde, souvent, il doit enlever sa couverture en disant, c'est là que je t'attends. Alors nous, n'essayons pas d'étouffer cela. Vous voyez, Thérèse, qui pleure, qui est prise par ses scrupules, cette épreuve de Thérèse, qui est aussi une épreuve pour son père et sa sœur, de voir qu'elle n'arrive pas à passer cette étape de l'enfance. Oui, eh bien, Jésus va venir nous rejoindre là. Des fois, nous voulons que Dieu nous rejoigne dans certains aspects de notre vie, mais si on veut venir sur des zones d'ombre, eh bien, n'hésitez pas, n'hésitons pas à lui montrer nos zones d'ombre pour qu'il puisse y faire sa lumière. L'attitude spirituelle dans cet accueil de la miséricorde, c'est la confiance. Alors ça, c'est un point constant chez les trois, c'est un appel à rentrer dans la confiance en l'amour de Dieu pour nous. Je citerai juste Saint Paul, j'en ai la certitude, ni la vie, ni la mort, rien ne nous séparera de l'amour du Christ, de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus. Rien ne nous séparera de l'amour. Votre péché ne vous séparera pas de l'amour de Jésus. Si vous gardez, c'est sûr. Mais si vous plongez dans sa miséricorde, il vous attend là. On se regarde en disant, oh, je suis encore pécheur, je suis encore, Dieu ne peut pas m'aimer. Alors que Dieu me dit, mais cours vers moi, je t'attends. Je veux te faire miséricorde. Je poursuis par une deuxième étape. Après le temps d'accueillir la miséricorde, il y a le temps de demander la miséricorde. Alors bien sûr, on peut entendre dans un premier sens dans l'attitude de se mettre à genoux et de dire, Seigneur, prends pitié de moi, avec ce que je viens de dire de la confession. Mais c'est demander la miséricorde pour nos saintes, ça va plus loin que seulement demander et recevoir le sacrement de réconciliation. C'est aussi d'intercéder. Nous sommes invités à intercéder pour les pécheurs. Marguerite Marie vivra cela de manière forte dans cette deuxième apparition. C'est un point à tournant, c'est-à-dire que je pense que c'est valable pour les trois. Elles ont accueilli l'amour de Dieu, elles ont découvert cet amour, et puis après, les unes et les autres ont dit, mais moi, Seigneur, je vais aller plus loin. Notamment avec cette expression de Margaret Mary, je vais te rendre amour pour amour. Ou avec cette offrande de Thérèse à l'amour miséricordieux. Mais le fait personnellement pour rester dans un cocon avec Jésus, toi et moi, tous les deux, qu'est-ce qu'on a bien? Et en fait, elles ont découvert ce qui habite le cœur de Jésus. Et qu'est-ce qui habite le cœur de Jésus? C'est le désir que tous les hommes soient sauvés. Et du coup, elles vont porter ça, les unes et les autres, à leur manière, et avec ce désir, eh bien, que tous les pécheurs reviennent au Seigneur. Et donc, cette intercession pour les pécheurs. Pour Margaret Mary, Jésus va lui expliquer justement que, en fait, elle va faire un cadeau à Jésus, et du coup, Jésus lui explique ce qui manque dans le cœur des hommes. Il dit, en fait, moi, je me donne à eux, mais eux, ils ne veulent pas de moi. Alors, toi, est-ce que tu veux bien suppléer leur ingratitude? Face à l'ingratitude des hommes, est-ce que tu veux pleine gratitude? Et donc, il va lui proposer trois moyens. D'abord, de communier, voilà, le plus que tu peux. Autant d'obéissance te le permet, c'est pas scrupuleux, hein, c'est pas que si tu dois être à ton travail, si tu dois être quelque part, hein, sois là où tu es, mais si tu le peux, j'aimerais. Non seulement parce que ça te fait du bien à toi, mais moi, j'aime demeurer en toi. Oui, des fois, vous allez à la messe parce que vous en avez envie, et des fois, vous n'avez pas envie, et là, vous dites, ah, mais Jésus, toi, tu as envie de demeurer en moi. Alors, je viens pour toi. Et dans cette amitié qui se construit, Jésus va lui expliquer un domaine un peu moins joyeux, on pourrait dire, c'est ce qu'on appelle l'heure sainte. Et l'heure sainte, c'est l'appel à prier une heure avec Jésus, en communion avec Jésus et l'agonie. Jésus explique que pendant son agonie, Pierre, Jacques et Jean sont en train de dormir. Et ils se sont abandonnés, alors qu'il doit donner sa vie. Il dit, Marguerite, si tu veux me faire plaisir, c'est un cadeau qui me plairait, c'est que pendant l'agonie, tu m'accompagnes, parce que je suis tout seul. Alors, est-ce que le soir, entre 11h et minuit, tu veux bien te lever de ton lit, et te mettre face contre toi, à côté de ton lit, hein, on va pas chercher une chapelle, et puis, à côté de ton lit, ben, je te ferai participer à cette agonie. Les paroles sont un peu violentes, hein, je te ferai participer à cette mortelle tristesse que j'ai dû vivre au jardin des Oliviers. Faites quoi, jeudi soir? Mortelle tristesse. Oh, c'est sur quelle chaîne? Ah non, ça n'a pas de tournée. Ah, d'accord. Et on insiste, laquelle tristesse te réduirait encore plus que la mort? Oh là là là. C'est pour vendre. Et vous voyez, c'est comme quand vous allez voir un malade. Ça ne vous motive pas d'aller voir un malade. Et en même temps, votre joie, c'est d'être avec lui. Et on n'a pas des grands discours à faire. Notre joie, c'est d'être ensemble. Et Jésus, dans cette heure d'agonie, dit, pendant cette heure, eh bien, tu m'accompagneras. D'abord, tu seras avec moi, tu seras avec moi. Et puis aussi, tu pourras avec moi demander miséricorde pour les pécheurs. Tu pourras apaiser la divine colère en demandant miséricorde pour les pécheurs. J'aime bien parce qu'il y a tous les mots qu'on n'aime pas dans cette phrase. Apaiser la divine colère. Alors, c'est intéressant parce que la divine colère, on la voit dans l'Ancien Testament. Et puis, nous, on est très vite. Oh, maintenant, le Nouveau Testament, c'est fini. Plus de colère, tout est bon, Jésus est amour. Et sauf que Jésus l'a rappelé à Margaret Mary, la divine colère. Elle a dit, c'est quoi cette histoire? Dans le recueillement avec la personne, il y a des choses un peu violentes. Hein. Attention, annonce ma miséricorde maintenant, parce que là, c'est le temps de la miséricorde, et puis après, il y aura le temps de la justice. Alors moi, je veux pas de miséricorde, mais il faut y aller maintenant. C'est pas très dépendant. Mais il faut bien comprendre tout ce vocabulaire-là. Demander, apaiser la divine colère en demandant miséricorde pour les pécheurs. D'abord, la divine colère, ce n'est pas une colère humaine, c'est une colère divine. Donc, ne calculez pas vos colères et ne les amplifiez pas à la manière divine. Ce n'est pas la même chose que quand vous vous énervez sur quelqu'un. Parce que vous dites, ouais, déjà, là, quand je m'énerve, c'est violent, mais alors si c'est Dieu qui s'énerve, la divine colère en demandant miséricorde pour les pécheurs. C'est quoi cette divine colère? Mais vous voyez, quand Jésus parle de moi, il dit, je suis venu pas pour les bien portants et pour les malades. Vous voyez, je suis venu pour les pécheurs. Jésus, c'est le médecin qui vient soigner les malades. C'est le sauveur qui vient chercher les pécheurs. Et comment il rassure les pécheurs par sa miséricorde. Et le médecin a le médicament pour les malades. Et les malades ne veulent pas le médicament. Les pécheurs ne veulent pas la miséricorde. Et là, on comprend la colère, la divine colère, d'une certaine manière. Je veux dire, les bras m'en tombent. Vous voyez ? Les hommes ne veulent pas la miséricorde. Et donc, il dit à Marguerite, demande miséricorde pour les pécheurs. Intercède pour qu'ils puissent recevoir ma miséricorde, que leur cœur s'ouvre, qu'à un moment ils disent, oh, Seigneur, je veux ta miséricorde. Alors là, tout de suite, pour vous qui êtes des spécialistes de Thérèse, vous retrouvez Sainte Thérèse. Thérèse vivra la même chose quand elle verra, quand elle contemplera la croix de Jésus et elle voit le sang qui coule et dit, oh, ce sang qui coule, Seigneur, j'entends ta soif d'être aimé, ta soif de sauver les hommes. Et puis j'entends aussi cette soif de pécheur. Et moi, je suis aidé, mais moi-même, je commence à dévorer par une soif, la soif de sauver les âmes. Et vous connaissez l'histoire de Pranzini. Eh bien, cette histoire de Pranzini, c'est exactement l'expérience de Marguerite Marie. Intercède pour les pécheurs. Marguerite Thérèse va intercéder pour son premier pécheur, son premier fils, qui va être Pranzini. Et elle continuera cela. Vous voyez ? Comment va-t-elle le faire ? Marguerite Marie, elle va le faire dans son époque un peu janséniste, elle va être un peu violente dans ses sacrifices. Et là, Jésus, elle va reprendre en disant, je ne t'ai pas demandé cela. Ce que tu as fait là, c'est pour moi. Les excès, là, c'est pour le diable. Mais elle est bénie dans une culture. Et Thérèse arrive avec, ah, mais moi, je fais des petits sacrifices, je ne sais pas faire des grands sacrifices. Voilà, ce prolongement. Arrive Saint Faustin, et il me semble en tout cas que pour nous, la réparation, c'est le terme un peu de tout ce que je suis en train de vous dire, l'intercession, la réparation, on n'a pas beaucoup aimé, hein. Alors on s'est un peu dit, on va oublier un peu la réparation. Et du coup, j'en ai revenu en 1931, avec force, pour dire quoi ? Pour dire à Faustin, réparation. Intercède pour les pécheurs. Je vous rappelle le contexte, 1931, on est à Cracovie. Cracovie est à 50 km d'Oswiezin, et dans, à Oswiezin, va commencer à se construire un camp qui portera le camp d'Auschwitz. On est en 1931, le camp ouvre en 1941. Imaginez qu'à 50 km de Paris, se crée un camp, et dans 10 ans, en 2027, eh bien, il y a un nouveau camp. Et Jésus vient voir notre nom pour dire intercède pour les pécheurs. Et demande miséricorde pour mes pécheurs. Il ne dit pas intercède pour les victimes. Il dit intercède pour les pécheurs. Alors, bien sûr, on prie pour toutes les victimes du nazisme. Mais en fait, on dit prie pour les nazis. Demande miséricorde pour les nazis. Comme si Jésus, Seigneur, nous disait intercède pour les terroristes, intercède pour Daesh, parce que je ne veux qu'aucun de ces petits ne se perde. Je veux que tous les hommes soient sauvés. Et donc, voilà, il retourne à la réparation, le festin va, comme on l'a dit à Jésus, je voudrais être signe de ton cœur miséricordieux. Dans le litanie du Sacré-Cœur, il y a litanie qui dit Sacré-Cœur miséricordieux de Jésus, j'ai confiance en toi. Voilà, et bien. Jésus, Marguerite Marie va être signe de ce cœur miséricordieux. Et Jésus l'invite à porter cela. Alors, comment on va le faire? Jésus va lui donner quelques petits détails. Chapelet de la miséricorde, Père de la miséricorde, Dommage de la miséricorde, et puis Témoignage de la miséricorde. Donc, on n'est pas dans la violence. Moi, quand je fais chapelet de la miséricorde, des fois, je me dis, Seigneur, comment se fait-il que ce petit chapelet, qui dure 10 minutes, va aider les hommes à recevoir ta miséricorde. Et là, je comprends que ce n'est pas moi qui fais grand-chose, c'est que c'est le Seigneur qui fait tout. Mais il y a là, dans cette petite chose, voilà, un déploiement de tes sacrifices à travers le geste simple de ce chapelet de la miséricorde. Donc, Jésus nous invite à demander la miséricorde pour le mal, mais aussi pour les pécheurs. Et mystérieusement, là, je vous dis, on a l'assurance là, qu'on peut mentionner jusqu'à la fin de nos jours. Parce que je peux être dans un lit d'hôpital et continuer à intercéder pour les pécheurs. Thérèse, dans son chemin, elle fera cette évolution. Au départ, elle priera pour les pécheurs, et à la fin de sa vie, elle dira, je me suis mis au rang des pécheurs. Je mange à la table des pécheurs. Donc, invitation dans ce temps pour nous, le temps de la miséricorde, à demander miséricorde pour les pécheurs. Alors n'ayez pas trop peur, hein, si vous mettez la ferveur sainte, vous n'allez pas suer des gouttes de sang, cette mortelle tristesse. De temps en temps, Jésus nous invite, fait peut-être remonter des choses dans nos vies, les contrariétés de la journée, voilà. Mais ces gestes-là, voilà, vous pouvez choisir, discerner, sont là pour être, pour accompagner Jésus. Au fond, je porte avec Jésus ce qui habite son cœur et son désir, encore une fois, que tous les hommes soient sauvés. Alors, le pape François dit dans le document, sur justement, voici le temps où on est favorable pour changer de vie, voici le temps de se laisser toucher au cœur, et puis il précise aussi pourquoi se laisser toucher au cœur. Et il dit, face au mal commun, au mal très grave, voici le moment d'écouter pour aider les innocents, d'éprouver de leur bien, de leur dignité, de leur affection, de leur vie même. Rester sur le chemin du mal n'est que source d'illusion et de tristesse. La vraie vie est bien autre chose. Dieu ne se laisse pas de tendre la main. Il est toujours prêt à écouter, et moi aussi je le suis, comme mes frères évêques et prêtres. Vous voyez, moi aussi. Non seulement Dieu se pourrait écouter, mais moi aussi je vais écouter. Et voilà qu'on puisse être sensible, se laisser toucher au cœur, comme le cœur de Jésus est blessé et ouvert, qu'on puisse avoir des cœurs sensibles, ouverts aussi, qu'on ait un cœur ouvert aux détresses du monde. Et présenter ces détresses au Seigneur. Et ces détresses, c'est facile, hein. Je crois que. Ne regardez pas seulement la détresse dans le monde entier, commencez autour de chez vous. Tiens, Seigneur, je te confie cet homme devant qui je suis passé, je te confie cette voisine du dessus, je te confie la réalité du quotidien. Et bien sûr, portons plus largement. Troisième temps que je vous propose, le temps d'accueillir la miséricorde, le temps de demander la miséricorde et le temps de donner la miséricorde. Encore une fois, c'est l'aboutissement de l'année de la miséricorde. Les uns avec les autres, je pense qu'on peut mieux apprendre à donner la miséricorde et faire en vivre. Une fois que j'ai reçu l'amour de Dieu pour moi, j'ai envie de le répandre. Et cet appel à donner la miséricorde, même si la plupart de nos sœurs saintes ici sont cloîtrées, elles l'ont aussi reçu. Marguerite Marie, dès sa première apparition, a reçu cet appel « Je veux répandre les flammes de mon amour par ton moyen, par toi. » Oui, c'est le moment souvent où on prie, Seigneur, oh, « Jésus, j'aimerais vraiment que tu touches le cœur de ma voisine parce que vraiment, elle est insupportable. » Tu l'aimes, toi, Jésus? Ah ouais, je suis passionné d'amour pour elle. Oh, t'as du mérite, hein, parce que moi, j'y arrive pas. Hein. Seigneur, il faut que tu fasses quelque chose. Tu ne pourrais pas toucher son cœur, qu'elle se convertisse, qu'elle commence à m'aimer. Parce que moi, je suis quand même quelqu'un de super. Et je dis à ma mère, oui, je veux répandre les flammes de mon amour. Par ton moyen. Oh Seigneur, non, trouve quelqu'un d'autre. Trouve quelqu'un d'autre. Je n'ai plus fort parce que. Elle a souvent dit, Seigneur, voilà. Moi je vais prier. Non, mais Jésus dit non, je veux que ça passe par toi. Tu pries pour qu'il y ait un ange qui descende ? Ben l'ange, c'est toi. Vous voyez ? Et c'est difficile. Et en même temps, c'est ça. Et on est appelé là. Je vous rappelle cette parole, hein. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est alors que vous aurez les uns pour les autres qu'on verra que vous êtes mes disciples. C'est exigeant, mais c'est notre appel. Donc c'est par toi que je veux passer, c'est pas par un autre, dit Jésus à Marguerite Marie. Et je vous rappelle, ne vous dites pas à Marguerite Marie, encore une fois, sainte sainte. C'est un don d'indignité et d'ignorance, hein. Elle n'est pas meilleure que vous. Thérèse, elle sera patronne de la mission. Elle portera, elle recevra aussi deux prêtres missionnaires pour qui elle intercédera, pour qu'elle va porter, vous voyez. Faustine, c'est l'expérience un jour où elle reçoit un plat, elle va chez elle, et elle lui prépare un plat, elle va lui amener le plat, et finalement elle découvre que c'est plus un pauvre que c'est Jésus. Le soir, Jésus revient la voir, et lui dit, ben tu vois, aujourd'hui tu m'as donné un plat. C'était moi, et je me suis caché derrière le pauvre. Faustine a une prière très belle, les autres l'ont aussi, mais je vais vous citer celle-ci. Seigneur Jésus, transforme-moi tout en ta miséricorde. Fais que mes yeux soient miséricordieux, pour que jamais je ne juge selon les apparences et ne soupçonne personne, mais que je vois dans toutes les âmes ce qu'elles ont de beau, et qu'à toutes je sois secourable. fait que ma parole soit miséricordieuse, toujours attentive aux besoins de mes frères et jamais fermée à leur appel. Fait que ma langue soit miséricordieuse. J'insiste. Fait que ma langue soit miséricordieuse. Enfin, je refais une fois. Fait que ma langue. Je crois qu'on a un carré sur le niveau de la langue, nous. Ah, trop tard. Pour que jamais je ne dise de mal de personne, mais que pour tous, j'ai des paroles de pardon et de réconfort. Fait que mes mains soient miséricordieuses, fait que mes pieds soient miséricordieux, fait que mon cœur soit miséricordieux et ouvert à toute souffrance. Je ne fermerai à personne, même à ceux qui en abusent, et moi-même, je m'enfermerai en ton cœur. Puisse ta miséricorde se reposer en moi, Seigneur, transforme-moi en toi, car tu es mon tout. Oui, j'ai envie de dire, ce thème, nous le connaissons bien, ce thème de la charité. Et pourtant, c'est peut-être le plus important des trois que je vais vous dire, même si je le développe peut-être moins, c'est cette conscience vive que ça doit passer par nous. Vous voyez, nous sommes attendus là. Nous sommes attendus dans ce témoignage de la charité, le témoignage de la miséricorde. Alors, le pape François l'évoque de manière forte, hein, en rappelant au numéro 15, eh bien, les œuvres de miséricorde corporelle et spirituelle, et puis on dit après, nous ne pouvons pas échapper aux paroles du Seigneur, et c'est sur elles que nous serons jugés. Aurons-nous donné à manger à qui a faim et à boire, aurons-nous donné à manger à qui a faim et à boire à qui a soif? Aurons-nous accueilli l'étranger et vêtu celui qui est aimé? Aurons-nous pris le temps de demeurer auprès de celui qui est malade et prisonnier? Demain, on sera demandé si nous avons aidé à sortir du doute qui engendre la peur, et bien souvent la solitude, si nous avons été capables de vaincre l'ignorance dans laquelle vivent des millions de personnes, surtout des enfants privés de l'aide nécessaire, si nous nous sommes fait proches de celui qui est seul et affligé, si nous avons pardonné à celui qui nous offense, vous voyez, il ouvre le champ de la charité. Alors, dans cette démarche, j'aimerais vous exhorter un peu plus, notamment vers sa mère Teresa, qui pourrait être le prolongement de ces trois saintes, sur le regard. Alors, de demander la grâce au Seigneur de voir la personne comme on les voit. On a tous dans nos cœurs des personnes avec qui c'est plus difficile. De temps en temps, pour un moment, j'ai des gens qui disent, mais non, mon père, vraiment, j'en veux pas. J'aime tout le monde, hein. Je crois que je ne vois personne que j'aime moins. Alors là, je bénis le Seigneur, je suis prêt à les embrasser, ces personnes, parce que... Voilà. Et bien, de demander ce cœur et ce regard de Jésus, vous voyez, ce n'est pas grave qu'il y ait des personnes que vous avez plus de mal à aimer. La question, ce serait de s'arrêter là. C'est pas parce que j'ai plus de mal à aimer mon frère que je ne dois pas l'aimer. La question, souvent, vous voyez, à mon père, j'ai du mal à... Mais c'est pas empêché d'avoir du mal. J'ai du mal à aimer. C'est pas grave si tu aimes quand même. Voilà, vous comprenez? Avoir du mal, c'est pas un péché. Ce qu'il faut, c'est quand je ne le fais pas. J'ai du mal à supporter cette personne-là. Ben oui, mais tu as quand même réussi à rester à côté d'elle et c'était difficile. Mais Jésus n'a pas dit, t'inquiète pas, si tu me suis, ce sera facile. Oui, j'ai du mal, mais Seigneur, apprends-moi. Alors comment tu vois la personne? Parce que moi, cette personne, ce Zachée-là, j'ai du mal à l'aimer. Ils me volent mon argent, j'ai vraiment du mal. Et toi, Jésus, comment tu vois Zachée? Ah, mais Zachée, en fait, son problème, tu vois, c'est que, avec tout ce qu'il a vécu dans sa vie, ben, il a trouvé son bonheur dans l'argent, mais en fait, il est seul et il est triste. Ah, en fait, Zachée, il est triste. Ah là, d'accord. Et Seigneur, je change mon regard sur Zachée. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse, Seigneur, pour Zachée? Ah ben, Zachée, j'aimerais bien t'aller manger chez lui. Mais qu'est-ce qu'ils vont penser les autres si tu veux? Ah mais, laisse tomber le regard des autres. Toi, tu vas manger chez Zachée. Je crois que c'est la parole la plus difficile que j'ai jamais réussi à dire. Manger chez Zachée. Et ça va, c'est pire que la chaussette sans tâcher. Voilà. Manger chez Zachée. Vous voyez comme quoi la charité n'est pas facile. Est-ce que c'est là, Seigneur, que tu m'attends? Oui. Alors, là, on a cette grande histoire, oui. Avec ceux qui sont là. Et dans toutes nos familles, on a des histoires un peu compliquées. On ne se pardonne pas, on ne se dit plus des choses. Voilà. Et Seigneur, ben, c'est encore l'année de la miséricorde. Alors, je vais aller voir cette personne, je vais aller voir ma soeur, je vais dire, j'aimerais qu'on parle. Et avant de aller, je prie, Seigneur, pour me dire, Seigneur, comment tu la vois? Qu'est-ce que tu vois en elle? Pourquoi elle est comme ça? Pourquoi elle s'élève tout de suite? Pourquoi elle est à vif? Pourquoi, voilà. Et Seigneur, montre-moi plus profond que ce que je vois seulement sur ce qui m'énerve direct. Montre-moi ce que moi-même je peux faire pour qu'elle soit comme ça. Et je ne me suis pas rendu compte qu'au fond, je l'ai blessée. Vous voyez, et c'est là que nous sommes attendus. Normalement, je pense que les gens dans la rue devraient nous arrêter en disant « Ah ! T'as vu, cette personne, elle est chrétienne. » Ils le savent, ça se voit. Pourquoi ? Pas parce que vous avez une vie sans maladie, sans épreuve. Sans... Non, vous avez les mêmes épreuves que tout le monde, mais vous vivez avec Jésus. Oui, et je crois que nos trois saintes ont vécu, alors vous connaissez Thérèse avec son histoire de cette sœur qu'elle avait du mal à aimer et qui après sa mort va dire oh, Thérèse, j'étais sa préférée. Mais c'est un retour, frères et sœurs, que si vous avez plus de mal à aimer, vous pouvez plus dire plus tard oh, mais elle m'aimait, mais extraordinaire. Moi, j'étais surpris, j'étais quand même pas quelqu'un d'extraordinaire, mais oui, elle a réussi à faire, elle a transformé. Donc le problème, c'est pas que ce soit difficile. C'est pas qu'on n'y arrive pas. Ben, prenons hâte. Oui. Prenons hâte dans nos difficultés. Et disons, Seigneur, ok, il faut que je travaille sur ce point-là. Mon problème, c'est la langue. Ben, Seigneur, il faut que je prie là-dessus. Seigneur, il faut que je sois, que ma langue soit miséricordieuse. Vous voyez? Et là, on se renseigne là où on est, chacun d'entre nous. Alors, je pense qu'il est l'heure de conclure. Hein. Donc, j'aimerais conclure avec un texte du pape François qui dit « Peut-être avons-nous parfois oublié de montrer et de vivre le chemin de la miséricorde. De montrer et de vivre le chemin de la miséricorde. Le temps est venu pour l'Église de retrouver la joyeuse annonce du pardon. Le temps de revenir à l'essentiel pour se charger des faiblesses et des difficultés de nos frères. » Alors, j'aimerais vous dire deux choses par rapport à cette parole. D'abord, la miséricorde, c'est plus qu'un pardon. La miséricorde, c'est comme dans l'Exode, Dieu a vu la misère de son peuple et elle est descendue. Dieu voit votre misère. Il y a des choses sur lesquelles, ben, c'est votre péché et Dieu va vous libérer de votre péché. C'est peut-être la plus grande misère. Voilà. Quand Jésus voit le paralytique, il commence par lui dire tes péchés sont enlevés. Il commence pas par lui dire je te guéris. Parce qu'il voit que ça peut. Même peut-être pour l'aider à vivre sa maladie, il faudrait qu'il soit libéré de son péché. Mais Dieu voit aussi votre misère qui n'est pas l'ordre de péché. Et Dieu voit la misère du monde qui n'est pas forcément l'ordre de péché. On citait tout de suite, avec le pape François, les enfants qui n'ont pas d'éducation, voyez. Et nous sommes invités à être attentifs à la misère de notre temps. Quelle est la misère de notre temps? Et d'entendre Dieu qui veut se pencher sur la miséricorde, sur la misère du peuple. Comme pour Moïse. Dieu dit à Moïse, j'ai vu la misère de mon peuple, et je suis descendu. Et alors on se dit, super. Sauf que les trois mots suivants sont, va, je t'envoie. Comment Dieu descend? En envoyant Moïse. Et donc Dieu dit la même chose. Dieu voit la misère autour de vous, et il vous dit, va, je t'envoie. Vous voyez, Jean Jadon avait une grand-mère seule. C'était la misère de son temps. Elle s'en est occupée. Et puis on avait une deuxième, une troisième, et les gens sont venus l'aider en disant « Ah, vous occupez les grands-mères, je vais vous aider, madame. » Et ça a fondé les petites sœurs des pauvres. Mère Teresa a entendu un pauvre qui avait soif, et elle s'est dit « Il faut que je m'occupe de ce pauvre. » Et puis un deuxième, et puis un troisième, et là il y a des personnes qui ont dit « Ah, ma sœur, on va vous aider. » Et c'est devenu les missionnaires de la charité. Ils n'ont pas commencé par faire des choses énormes, ils ont commencé par s'occuper de ce qu'il y avait autour d'eux. Donc, qu'on rentre dans ce temps de la miséricorde sur cet esprit-là. Deuxième aspect, eh bien, il est temps de revenir à l'essentiel de l'époque pour se charger des faiblesses et des difficultés de nos frères. Vous voyez, et de revenir à l'essentiel. On peut perdre notre temps avec plein de querelles qui n'en valent pas la peine. Et je pense, là je vais parler seulement pour ceux qui sont dans l'Église, pour nous chrétiens, est-ce qu'on ne perd pas notre temps de temps en temps dans beaucoup de petites querelles? Et le Seigneur nous invite à dire, il y a plus important que ça. Regarde l'urgence de la mission. Alors ta querelle, pour reprendre un des derniers livres qui vient de sortir, la carrière des pots de fleurs qui ne sont pas au bon endroit, c'est pas ce qu'il y a de plus important. Mais ne voyons pas trop vite, parce que si ça ne nous concerne pas, la question des pots de fleurs, il y a peut-être d'autres aspects dans notre vie qui peuvent nous concerner. Et se dire, bah, Seigneur, au fond, c'est quoi l'urgence? Donc, donnez-moi la grâce de revenir à l'essentiel, et de la même manière que pour leur temps, Marguerite Marais, Thérèse et Faustin ont été signes, et sont pour nous des intercesseurs, ça aussi c'est difficile à dire comme mot, des personnes qui prient pour nous, eh bien, soyons maintenant le saint de notre temps. Il y a quelque temps, je faisais une carte avec les saints de Paris, suivant le temps, les périodes. Et en fait, il y a des moments où il y a un saint qui surgit, il y a Saint-Jean-de-Vicie, et puis il y a des moments où il y a un groupe de saints. On a l'impression que c'est les copains de l'époque. Par exemple, la bande à Bérôme, les Saint-Paul, les Amériac, la fin de bande du copain. Et ils se sont entraînés dans la sainteté. Alors, frères et sœurs, la chapelle est pleine, et bien, soyons le nouveau saint de la miséricorde pour ce siècle, il faudra bien canoniser quelques-uns. Donc, j'invite les uns et les autres à se proposer volontaires pour être le saint du 21e siècle. Je vous remercie. Thank you.